Nous sommes très heureux de retrouver notre évêque, Mgr Marc Haillet. Bonjour.
Bonjour.
Nous enregistrons cette émission à la fête de l'Annonciation du Seigneur, qui cette année est célébrée le 8 avril. Pour commencer, Mgr, une bonne nouvelle, puisque une collaboratrice fidèle de cette émission, Violaine Ricourt-Dumas, vient de donner naissance à une petite fille qui s'appelle Brune. Donc nous en profitons pour la saluer et puis saluer également les auditeurs de Radio Présence Lourdes Pyrénées et de Radio La Pourdi Iratia.
J'en profite moi aussi pour féliciter l'heureuse maman et son papa et tous mes voeux aussi à cette petite Brune que je prends déjà dans ma prière.
Je suis accompagné aujourd'hui de Baptiste Pochelu, qui est stagiaire au service diocésain de l'information et de la communication en ce moment. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Et d'Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors Mgr Haillet, la dernière fois que nous avions enregistré cette émission, nous avions terminé sur qui sera le nouveau pape. Et ça y est, c'est fait. Donc le nouveau pape s'appelle François. Vous avez déjà réagi sur notre antenne à son élection. Peut-être quelques mots sur les premières paroles, les premiers gestes de ce nouveau pape.
D'abord, le premier mot que je dirais, c'est que c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait les papes et que c'est vraiment le Christ qui construit l'Église et qui nous réserve toujours des surprises. Comme on le sait, les vaticanistes professionnels, les grands journalistes des grands médias du monde entier, avaient des favoris, avaient conjecturé sur l'heureux élu bien avant le conclave. Donc, comme toujours, comme il y a eu un concile des médias, il y a eu un conclave des médias. Et puis tout le monde a été complètement étonné, surpris. Les vaticanistes n'avaient pas prévu la petite fiche qui permettait de présenter l'heureux élu, l'archevêque argentin de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Voilà. Alors donc ça, pour moi, c'est déjà une première preuve du caractère extrêmement spirituel et surnaturel de l'élection d'un pape, sur lequel un certain nombre de cardinaux ont témoigné avec beaucoup d'émotion dans une émission que j'ai à peu près vue, le jour de Pâques, là, après la bénédiction Urbi et Orbi sur Antenne 2, et où les cardinaux disaient c'est vraiment l'acte le plus spirituel de notre vie, de notre expérience chrétienne. On a évidemment discuté entre nous, on a entendu les interventions des uns et des autres aux congrégations générales, on s'est fait déjà l'idée sur celui qui correspondrait le mieux pour l'époque que nous vivons, sans d'ailleurs jamais prononcer de nom, et d'ailleurs tous ceux qui avaient été favoris par les médias n'ont quasiment jamais eu de voix. Et on voit bien quand on est là, en train de déposer notre bulletin dans la patène, devant le jugement dernier de Michel-Ange, dans cette belle chapelle Sixtine, selon la formule, Dieu nous jugera sur celui que nous considérons comme le plus apte à conduire l'Église de la part du Seigneur en cette époque qui est la nôtre. Donc ça veut dire qu'ensuite on s'est emparé de la personnalité de Bergoglio, qui était évidemment très différente de ses prédécesseurs et de son prédécesseur immédiat, et on a aussi tout de suite conjecturé sur la manière dont il est, dont il sera, dont il fera. Il faut s'attendre à beaucoup de surprises qui viennent de l'Esprit-Saint. Je crois qu'il reçoit un charisme d'assistance tout à fait particulier de l'Esprit-Saint pour être le successeur de Pierre. Et il aura son style à lui. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est la richesse de l'Église. Vous voyez, après le style du cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI, le style de Karol Wojtyła devenu Jean-Paul II, c'est le style de Jorge Mario Bergoglio qui est devenu François. Et moi, je trouve ça magnifique de voir cette richesse qui n'est jamais à regarder en concurrence. Et c'est ça aussi l'une des phrases qu'il a prononcées au début. Il dit « L'Esprit-Saint semble faire les différences ». Et c'est important dans notre société d'aujourd'hui parce que les différences, qui sont souvent interdites, divisent et sont souvent des menaces dans les relations entre les hommes. Et il dit « Mais pas, il fait les différences non pas à égalité, mais dans l'harmonie ». C'est l'Église. Une mosaïque magnifique qui est une communion de charismes très différents. Et mes premières impressions, quand je vois ce premier pape, ses premiers gestes, c'est sûr que c'est un religieux qui a une vraie simplicité. C'est un jésuite, donc celui qui a un quatrième vœu par rapport aux autres religieux, qui est celui de l'obéissance au pape, qu'il devient, ce qui est assez inédit et ce qui est assez original comme situation. Et d'ailleurs, dans tous ses discours, à commencer par sa première homélie dans la chapelle Sixtine, qui était très frappante, et je ne sais pas si les médias y ont été bien attentifs, eh bien, il a déployé une méditation bien connue des exercices spirituels, qui est au plein milieu de la deuxième semaine des exercices, qui est déterminante pour la démarche de conversion intérieure que induit les exercices spirituels de Saint Ignace, qui est la méditation des deux étendards. Est-ce que nous sommes prêts à suivre le Christ ou le diable, dit saint Ignace. Et comme vous le savez, le pape, le premier auteur qu'il a cité est un auteur français, qui est Léon Blois, du début du XXe siècle, qui a un langage assez peu politiquement correct. Et il cite cette phrase, me vient à l'esprit la parole de Léon Blois qui dit « Celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Celui qui ne confesse pas le Christ, donc, dit-il, confesse les mondanités du diable. » Voilà. Et il est assez souvent revenu sur cette question. Moi, pour moi, pour l'instant, le pape François, c'est un prédicateur de retraite qui est en train de nous faire entrer dans une grande retraite spirituelle.
Donc un pasteur, un professeur, vous le qualifieriez comment ?
Un pasteur et un prédicateur de retraite. Un pasteur, évident que c'est un pasteur. C'est pas un théologien dénué, hein. Il a puisé d'ailleurs aux mêmes sources, plus ou moins, que Benoît XVI. En Allemagne, il a fait sa thèse sur Romano Guardini, qu'il a cité d'ailleurs hier à la messe au Latran, où il a pris possession de sa cathédrale. Donc c'est un théologien qui a été professeur aussi, hein, au séminaire. Mais c'est d'abord un pasteur, et c'est vraiment d'abord un prédicateur de retraite.
Monseigneur, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'ores et déjà de se faire une idée des orientations que le pape François donnera à son pontificat en fonction des discours, des déclarations, homélies ou initiatives qu'il a pu prendre depuis son élection?
Alors de ce côté-là, dans un style et dans une manière différente de Benoît XVI, il ira dans le même sens d'un recentrage sur l'essentiel. C'est ce qui apparaît déjà dans son discours. Il a vraiment le souci de nous ramener au cœur de l'Évangile et à la centralité du Christ pour cette année de la foi, ça tombe bien. Donc je crois qu'il y aura une... Mais la deuxième grande tentation que je vois poindre, et c'est, on le sent dans ces Angélus, enfin les Regina Coeli, puisqu'on est dans le temps pascal, dans ces homélies, c'est l'évangélisation et la nouvelle évangélisation. Il ne faut pas oublier que le cardinal Bergoglio est archevêque d'un grand diocèse d'Amérique latine, continent ou sous-continent américain, qui est entré depuis 2007 sous l'impulsion de Benoît XVI, qui a présidé le début de ses travaux et donné la feuille de route à l'épiscopat latino-américain, qui est entré dans une grande mission continentale. Un grand texte qui illumine cette grande mission d'évangélisation continentale, qui est le fruit des travaux de la 5e conférence générale d'épiscopat latino-américain, qui s'est tenue à Aparecida, au Brésil, en mai 2007, et qui est intitulée Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui. Et le cardinal Bergoglio est celui qui a déjà, à l'instar de la plupart des grandes villes d'Amérique latine, envoyé les jeunes à Buenos Aires pour annoncer l'évangile deux par deux, porte à porte, évangélisation de rue. Et hier, il le disait. Il disait, il faut que vous alliez proclamer l'évangile, il faut donner une visibilité dans le monde d'aujourd'hui à la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité.
Autre image inédite, c'est la rencontre de l'ancien avec le nouveau pape. Alors c'était assez émouvant de les voir les deux.
Très émouvant parce qu'on avait l'impression que c'était le fils qui rendait visite à son père. On voyait dans le regard du pape François beaucoup d'admiration et en même temps celui qui était devenu le père par le charisme qui lui était donné à travers l'élection. Et cet effacement de Benoît XVI, auquel il nous avait habitués pendant tout son pontificat, parce que c'est l'homme humble par excellence. D'ailleurs, le témoignage appuyé que François à plusieurs reprises a rendu à son prédécesseur, c'était pour insister sur l'humilité. Et l'effacement de Benoît XVI devant le nouveau pape, auquel il avait déjà donné, sans savoir le nom, en prenant congé des cardinaux, toute sa révérence et son obéissance inconditionnelle. Et moi, la plus belle image que j'ai vue, c'est évidemment tous les deux sur le banc de la chapelle en train de prier, et aussi lorsque le pape François lui remet une icône, qui est l'icône de la Vierge de l'Humilité, dit-il à Benoît XVI, il dit « je vous l'ai apporté parce que j'ai pensé à vous ». Alors l'autre qui s'excuse en disant « mais non, merci, mais voilà ». Donc c'est vrai que c'est très émouvant.
Alors le jeudi saint, le pape n'a pas célébré la messe de la Sainte Cène à la cathédrale Saint-Jean du Latran, comme c'est l'habitude. Il est parti célébrer cette messe dans une prison de mineurs. Il a lavé les pieds de 12 jeunes, dont deux filles et dont une musulmane. Là aussi, c'était assez inédit. Comment vous avez perçu, vous, ce geste?
Alors, première chose importante qu'il faut savoir, pourquoi il n'a pas célébré la messe au Latran? Tout simplement parce qu'il n'avait pas encore pris possession de sa cathédrale, qui ne pouvait pas se faire autrement qu'un dimanche festif, donc forcément après le triumphe pascal. Donc, puisqu'il était libre de la cathédrale du Latran, où forcément l'année prochaine il y sera, en tant qu'évêque de Rome, il célèbre forcément la messe in Cena Domini, qui n'est pas la messe de la Sainte Seine, parce que ça c'est une extension du rituel protestant, c'est la messe de la Seine du Seigneur, eh bien il célébrera au Latran. Alors il était libre, il est allé comme tout évêque au monde, enfin comme beaucoup d'évêques, moi d'ailleurs je vais tous les ans depuis 4 ans le jeudi saint célébrer la messe en prison, et je fais aussi le lavement des pieds aux détenus, et donc il est allé dans une prison de mineurs. Moi, ça me choque pas du tout que dans un cadre qui n'est pas un grand cadre liturgique, une salle de prison, il puisse faire le lavement des pieds. Bah voilà, c'est vrai, c'est inusité, mais ça n'engage pas la foi et les mœurs.
Vous laveriez les pieds, vous, à quelqu'un qui n'est pas baptisé dans votre cathédrale?
Et pourquoi pas? Pas dans la cathédrale, non, je pense pas, parce que là, on est dans un cadre liturgique, dans un lieu liturgique. Mais voilà, ça s'est fait, je sais pas dans quel contexte ça s'est fait d'ailleurs, est-ce que c'est lui qui a décidé de le faire, est-ce qu'on lui a amené des jeunes qui étaient là? Mais c'est pas, pour moi, ce sont des questions qui restent très contingentes.
Le prédicateur de la maison pontificale a prononcé une homélie le vendredi saint, puisque c'est la tradition, en s'adressant au nouveau pape, et il a incité à réformer l'Église. Pour vous, est-ce que c'est urgent qu'il y ait une réforme de la curie romaine, de l'Église? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait modifier selon vous?
Alors c'est urgent, c'est toujours urgent la réforme, et au sens vraiment le plus fondamental du terme, et spirituel du terme, qui est toujours une réforme intérieure. Vous savez bien que si le pape François a choisi saint François d'Assise comme patron de son pontificat, c'est l'amour des pauvres, et pas seulement les pauvres matériels, les pauvres spirituels, comme il l'a dit aussi à l'envi, et que la plus grande pauvreté, c'est justement la fin de Dieu et du Christ, le manque de Dieu dans la vie. Mais c'est aussi en référence à cet événement déterminant pour la vie de l'Église, que cette rencontre de saint François d'Assise avec le Christ de saint Damien, en bas de la ville d'Assise, qui lui dit « répare mon Église ». Parce qu'il était dans une chapelle en ruine. Et lui, il a compris comme étant le fait qu'il fallait qu'il répare cette chapelle. Mais le pape Innocent III, lorsqu'il fera ce songe que la cathédrale du Latran, qui est le symbole de l'église de Rome, dont il est l'évêque, qui préside à toutes les églises du monde entier, est en train de s'effondrer, est retenu, non pas par le pape, ça c'est une prédication de Benoît XVI d'ailleurs, sur saint François d'Assise, c'est pas le pape qui retient l'église, dit Benoît XVI. C'est le petit François d'Assise, le petit bonhomme barbu, que Innocent III va en effet voir en vrai, qui vient lui demander d'approuver la règle des frères mineurs, ces ordres mendiants naissants. Et Innocent III a compris que ça voulait dire que la radicalité de la vie évangélique des ordres mendiants, franciscains et dominicains, frères prêcheurs et frères mineurs, eh bien sera déterminante pour une vraie réforme intérieure de l'Église, et revenir au cœur de l'Évangile. Est-ce que ça passe par une réforme de la curie? Oui, sans doute. Mais ça, c'est les journalistes qui disent ça. Ça, c'est un autre problème. La vraie réforme, elle est celle des saints. Elle n'est pas celle des bureaucrates. Elle n'est pas celle des révolutionnaires. Elle n'est pas celle des sociologues et des psychologues, ni des journalistes encore moins. Décidément, on va croire que j'en ai contre les journalistes. Mais elle est celle des saints. Et c'est ça qu'il faut voir là-dedans. Réparer l'Église. Et dans la curie, il y a des saints. Il n'y a pas que des mauvaises personnes. Le pape sait très bien que la curie est un instrument nécessaire. Que ce soit simplifié par certains dans les procédures. Vous savez, les ministères du pape n'ont rien à voir avec les ministères du président de la République, fût-il socialiste. Le nombre de fonctionnaires qui ont été qui sont payés grassement par l'État pour ne rien faire dans nos administrations qui ont besoin vraiment d'être réformées et d'être dégraissées, ça n'a rien à voir avec une congrégation romaine où il y a 3-4 personnes qui travaillent. C'est un peu plus pour les grosses congrégations. Donc on n'est pas tout à fait dans le même cours.
Mais quand les cardinaux ont élu le nouveau pape, il y avait quand même ce désir d'un renouvellement, en tout cas. Par exemple, faut-il que le Vatican possède une banque?
Alors ça, c'est une question qui est à l'étude. Je crois que, comme vous le savez, Benoît XVI aurait pu partir il y a un an. Et pourquoi il n'est pas parti il y a un an, alors qu'il avait pris la décision? Tout simplement parce qu'il n'a pas voulu partir au moment où une crise qu'on appelle le Vatilix, hein, était en train de poindre. Il a préféré se coltiner cette crise, nommer des cardinaux pour faire un rapport qu'il a remis à son successeur avant de partir, quand l'enquête a été terminée. Donc c'est très important. Ça veut dire qu'il avait déjà beaucoup fait pour rendre plus transparentes les finances du Vatican, etc. Peut-être que le pape François décidera qu'on n'a plus besoin de banque. Peut-être que non. Je ne peux pas dire à sa place. Il faudrait évidemment qu'il ait encore un peu de temps pour écouter, voir, peser, discerner. Mais ça ne me choquerait pas que le Vatican n'ait plus de banque.
Nous retrouvons Mgr Marcaillier pour parler maintenant de la manif pour tous. Et Monseigneur, donc, vous étiez à Paris pour cette manifestation du 24 mars dernier. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette manifestation, vos impressions?
Moi, j'étais très frappé par le fait que cette manifestation qui avait été prévue depuis le 13 janvier, qui était la précédente manifestation, qui n'a pas eu d'ailleurs les honneurs des grands médias, qui ont réussi l'exploit d'ailleurs de n'en pas parler en amont, alors qu'en général on est au courant de n'importe quelle petite manifestation qui se prépare à Paris ou ailleurs. Et pourtant, la mobilisation a été encore plus importante que le 13 janvier. Inespérée ou inattendue pour les organisateurs mêmes, même si beaucoup de bâtons ont été mis dans les roues pour empêcher ces manifestations de vraiment se déployer là où il fallait, qui auraient permis des issues, j'allais dire, de secours pour permettre à une masse de gens qui avaient été largement sous-estimés par les services de police. Je ne fais pas de jugement de valeur, je ne fais qu'une constatation. Et c'est vrai que ce nombre de 300 000 avancées est un véritable scandale que tout le monde est capable de comprendre. Là non plus, je n'insisterai pas, mais c'est plutôt entre 1 million et 2 millions de personnes qu'il y a eu à Paris. Alors ce qui me frappe aussi, c'est que cette mobilisation est vraiment la mobilisation de la base, qu'elle n'est pas encadrée par des organisations professionnelles de la manifestation, encore une fois, qui n'ont même pas eu la publicité des médias pour pouvoir se déplacer. Ça veut dire qu'il y a des organisations, des associations locales, départementales, qui sont extrêmement mobilisées. Ce qui me frappe toujours dans ce genre de manifestation, parce que moi je n'ai pas la culture de manifestation, avant de venir ce genre de j'allais dire de procession, je n'ai jamais manifesté personnellement. Et c'est que c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment des gens d'horizons très différents, au niveau social, au niveau culturel, au niveau religieux aussi, hein, même si c'est vrai qu'il y avait une grande masse de catholiques quand même, qui constitue encore la religion la plus importante ou majoritaire en France. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que ce ne sont pas des gens qui viennent au nom d'une exaspération passionnelle, même si on sent quand même de plus en plus, et pour d'autres sujets en France, une exaspération montée, évidemment, hein, en particulier sur les sujets de l'emploi, les sujets des scandales financiers, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens ne manifestaient pas pour des intérêts particuliers à défendre, mais pour un bien commun qui échappe à l'individu et qui est valable pour tous. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une manifestation qui est tout à fait inédite. Et qui mérite vraiment d'être regardé avec beaucoup d'attention, sans doute pas suffisamment par le gouvernement actuel et les parlementaires, qui décidément ont l'habitude d'exister et de gouverner ou de légiférer, un peu déconnectés quand même du pays réel. Et c'est quand même une expression quand même de la réalité du terrain, qui se fait entendre, encore une fois, de manière qui reste bon enfant et pacifique, même s'il faudrait faire attention à ce qui n'est pas une exaspération qui, au fond, est un peu normale, surtout chez les jeunes, parce que ça touche beaucoup de jeunes. Et c'est ça qui est aussi très, très intéressant. Beaucoup de jeunes, beaucoup de familles jeunes avec des enfants, et tout ça, pour moi, j'ai dit, c'est un peu un printemps des consciences qui est annoncé par ce genre de manifestation, vous voyez. Pourquoi printemps des consciences? C'est le bon sens qui se réveille. C'est quoi le bon sens? C'est le contact direct avec le réel, qui résiste finalement beaucoup plus qu'on ne pense, malgré le matraquage médiatique dont les Français sont l'objet actuellement, et qui est souvent idéologique. C'est une résistance à l'idéologie qui tente à gouverner les hommes et les sociétés. L'idéologie, c'est partir de l'idée et forcer la réalité à partir de l'idée. Le bon sens, c'est le contact direct de la réalité, qui donne à penser, eh ben, les choses à partir de la réalité du réel. Et donc là, il y a un basculement culturel qui est en train de s'opérer. Et moi, de toutes mes forces, tout en restant à ma place, hein, de pasteur, d'évêque, vigilant, mais accompagnateur aussi de son peuple, eh bien, je suis très attentif à ce réveil culturel, à ce réveil des consciences.
Il y a une évolution, selon vous, de l'opinion publique en défaveur du mariage homosexuel.
Alors, comme vous le savez, dans sa première lecture, l'Assemblée nationale a voté à la majorité un projet de loi, donc Taubira, sur le mariage et l'adoption pour tous. Dans les termes de la loi, il n'y a aucune distinction entre le mariage entre personnes de même sexe et la capacité d'adopter des enfants, avec toutes les conséquences inéluctables, quoi que on nous dise aujourd'hui, concernant la procréation médicalement assistée, ce qu'on appelle la PMA, sans dire exactement ce que ça veut dire, et la gestation pour autrui, ce qu'on appelle la GPA. Bon, ça c'est inéluctable, personne ne peut prouver le contraire. Sauf à affirmer, plus vous affirmez, plus vous êtes disqualifié. Et on continue dans les sondages à distinguer les deux choses dans l'esprit des gens. Ce qui fait qu'on est dans des sondages qui ne signifient rien du tout. On leur dit, vous êtes pour le mariage homosexuel? Alors il y a encore, paraît-il, 53% qui sont favorables. Je voudrais voir. Et vous êtes pour l'adoption? Alors là, il y a 56% qui sont plus. On est obligé de dire là qu'il y a une évolution. Or, un sondage IFOP qui a eu lieu 10 jours avant ou 15 jours avant la manifestation du 24 mars, poser la question, est-ce que vous êtes pour le mariage et l'adoption, donc pour, d'accord avec le projet de loi type Taubira qui légifère sur le mariage des personnes homosexuelles avec adoption d'enfants. Il n'y a plus que 39% qui sont pour, 20 et quelques pourcents pour une sorte de contrat civil d'union, hein, d'union civile. Et puis ensuite, 22% qui n'ont pas d'opinion. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous posez les questions, déjà, vous donnez la réponse. C'est de l'idéologie, ça. Ce n'est pas le contact avec le réel.
Certains activistes, en tout cas, harcèlent, selon certains médias, certains élus. Vous, comment vous appréciez ce genre de ce qu'on appelle des débordements pour certains médias? Vous appréciez ça de quelle manière,
quoi? Alors moi, je me réjouis que des jeunes, de manière très pacifique, sans jamais avoir à utiliser des moyens de violence, d'une certaine manière, se font entendre par tous les moyens. Alors, ils vont avec leur petit drapeau rose et bleu, c'est toujours très bon enfant, accueillir un ministre qui se déplace dans telle ville pour telle ou telle manifestation, pour se faire entendre, puisque les médias, d'une manière qui est antidémocratique, ne rendent pas compte habituellement d'un million, 800 000 sans doute personnes, qui marchent dans les rues de Paris pour s'opposer à un projet de loi, alors que si vous avez une manifestation de 300 personnes pour tel ou tel problème social, vous êtes sûr que vous l'aurez en boucle sur France Info et à la télévision. Donc forcément, faut attirer l'attention. Du moment que ça reste pas dans la que c'est pas dans la violence, qu'on porte pas la main et qu'on n'attente pas à l'intégrité physique des gens. Moi, je me réjouis de voir ça. Je trouve que ça prouve une vitalité et une sorte de dynamisme du moment que ça reste bon enfant. Alors, c'est vrai que vous aurez forcément aujourd'hui, dans le climat d'exaspération sociale qui ne fait que monter au dire des hauts fonctionnaires de l'État même aujourd'hui dans les régions par rapport en particulier au problème du chômage, au problème de la croissance, au problème des problèmes sociaux, économiques, hein, qui ne trouvent toujours pas de solution efficace, c'est sûr que vous allez forcément avoir tel ou tel petit groupe, surtout s'il s'agit des jeunes, mais je crois que c'est très anecdotique. Mais encore une fois, c'est monté en épingle par les médias, qui sont en effet, semble-t-il, porte-parole, plus d'un gouvernement que de l'opinion populaire.
En fin de semaine dernière, il y a Mme Lignière-Cassou, donc députée maire de la ville de Pau, s'en est prise à vous, à vos positions vis-à-vis de ce projet de loi, en reprenant votre message, Pascal. Et est-ce que vous souhaitez faire une réponse
à... Non, pour moi ça n'a aucun intérêt, c'est parfaitement anecdotique qu'une députée maire qui a aussi le droit de s'exprimer comme moi d'ailleurs, s'en prenne à mon message, Pascal, parce que ça la dérange. Bah, je vois ça plutôt un effet de panique, hein, face à l'effondrement auquel ils sont obligés de gérer. Voilà. Mais je vois pas quel commentaire faire à ça.
La prochaine mobilisation aura lieu le 26 mai, donc une nouvelle manif pour tous à Paris. Vous invitez bien sûr à y aller.
Moi, je ne sais pas si ce sera le 26 mai. Pour l'instant, je pense que la date n'a pas encore été fixée, semble-t-il, d'après ce que j'entends comme vous tous, des organisateurs, qu'on peut trouver sur le site La Manif pour tous, je pense. Quel que soit le moment où elle aura lieu, si elle a lieu, cette manifestation, moi, je continuerai d'encourager, en effet, les fidèles laïcs, qui rejoignent beaucoup d'autres citoyens dans cette démarche, à prendre leurs responsabilités et continuer à faire entendre leur voix.
Vous faisiez allusion à l'exaspération qui monte dans le pays, pas seulement par rapport à cette loi Taubira, mais également aux conditions de vie des gens qui ont tout simplement du mal à boucler leur fin de mois. Quand on assiste à l'affaire Cahuzac, au mensonge d'un ministre de la République, qu'on nous parle de paradis fiscaux, quelle est votre réaction?
Moi, c'est évident que ça fait partie des effets corollaires d'une société dans laquelle on a beaucoup misé sur l'argent. Et on a beau être socialiste ou quel que soit le parti politique, on est en général très, 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 très. On mise beaucoup sur l'argent. Dans cette affaire, j'ai trouvé que c'était un peu minable la manière dont elle avait été traitée. On a d'abord couvert Mordicus, Perine Diat Cadaver, comme dirait Saint-Ignace de Loyola ou comme diraient les jésuites, ce ministre du budget, en disant non, on s'engage pour lui, et puis après on l'a lynché, d'une manière qui m'a semblé assez odieuse, et en utilisant des mots que, évidemment, nous ne connaissons pas dans notre vocabulaire chrétien, qui est impardonnable. Vous voyez, c'est là où on se rend compte qu'un humanisme sans Dieu et sans la foi chrétienne est fini par être un humanisme inhumain. Qu'une faute soit inexcusable, qu'elle mérite d'être payée et sanctionnée, ça c'est normal. Qu'on dise qu'elle est impardonnable, ça appartient pas à mon vocabulaire. Et je trouve que c'est dit avec d'autant plus de hargne et de haine et de colère que c'est dit peut-être par des gens qui peut-être ne sont pas complètement innocents.
Et qui l'ont encensé à une certaine époque.
Il y a sans doute d'autres intérêts que nous ne connaissons pas, qui peut-être malheureusement arriveront au jour, comme toujours, et qui risque de faire mal à tout le monde, parce que ça fait mal à tout le monde, ça. Et c'est pas la question d'un parti politique en particulier, Mais sans doute que ce gouvernement qui a tellement voulu être le gouvernement des mains propres, ça le met forcément en très grande difficulté.
Nous nous retrouvons, Mgr Hayé, pour la dernière partie de cette émission qui sera consacrée à la vie de l'Église. Alors, vous avez célébré un temps fort de la vie diocésaine. C'était la messe chrismale à la cathédrale d'Oloron le 25 mars dernier, le lundi saint. Et vous étiez très heureux, je crois, d'être entouré des prêtres du diocèse.
Oui, très heureux de ces journées qui, maintenant, nouvelle formule, commencent par le repas sacerdotal et puis se poursuivent par un temps d'échange et de partage, évidemment, qui est un peu plus difficile parce qu'après un bon repas, on est toujours un peu amorti. et puis qui se termine par la messe chrismale à 18h, donc dans une de nos trois cathédrales. Cette année, c'était à Oloron, avec grand concours de peuple. La cathédrale était bien remplie, la messe était très belle, bien organisée et bien préparée par le service diocésain de pastoral liturgique. Les chants étaient beaux et la participation des prêtres était importante, plus importante que l'an dernier. Il y a beaucoup de prêtres qui viennent seulement à la messe et pas pendant la journée. Donc je crois que c'est des moments forts de rassemblement du presbytérium.
Vous allez aller à Paris pour l'assemblée plénière des évêques qui se déroulera pas à Lourdes cette fois-ci. Alors cette assemblée, elle a été décalée en raison de la renonciation plutôt du pape Benoît XVI.
Voilà, c'est-à-dire qu'à cause du conclave qui avait lieu à peu près à ce moment-là, le conseil permanent a décidé de reporter l'assemblée plénière qui était prévue donc avant les rameaux à Lourdes, évidemment en dehors des pèlerinages qui nous permet d'utiliser pour les hébergements l'accueil Notre-Dame et donc forcément après Pâques, puisqu'elle a été reportée du 16 au 18 avril, on peut plus être reçu à Lourdes et donc on va à Paris à la maison de Breteuil. Il y a des maisons religieuses autour qui sont capables d'accueillir.
Vous connaissez déjà les sujets qui vont être abordés?
Alors, les sujets importants de cette assemblée plénière, d'abord, il y aura sûrement un retour sur l'élection du nouveau pape, c'est évident, et on aura les comptes rendus de nos trois cardinaux électeurs. Mais un des sujets les plus importants, c'est le statut de l'enseignement catholique, pour lequel on doit encore proposer des amendements. Et on va voir, on va le discuter et voir si. On le vote cette fois-ci, mais à mon avis, je crois que ce sera plutôt en novembre, et ce que j'espérerais d'ailleurs, pour qu'on ait vraiment le temps d'affiner ce statut qui va nous embarquer pour plusieurs années dans ce monde catholique. Et puis, on va avoir surtout beaucoup d'élections. la réélection, l'élection du président de la Conférence évêque de France, des vice-présidents, et pas mal d'autres commissions à pourvoir.
Le thème de la laïcité sera abordé lors de cette assemblée ?
Sans doute, et en particulier sous le biais de la catéchèse, dont on parlera peut-être, puisque les rythmes scolaires ayant été modifiés, on va aussi avoir une position commune à adopter sur cette question des rythmes scolaires pour la catéchèse en France.
Alors précisément, Monseigneur, à propos de la laïcité, il est également question d'une autre loi à laquelle le gouvernement a pensé et dont il a déjà parlé, pour limiter le port des signes religieux, c'est le foulard islamique, entre guillemets, qui certainement est dans le collimateur du gouvernement, pour limiter le port des signes religieux, non seulement dans des structures publiques, mais également dans des structures de droit privé telles que des entreprises, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle perspective ?
Alors moi, j'ai un peu peur que ça entame, effectivement, le droit à la liberté religieuse. Hein. Ce port de signes religieux n'est pas forcément une arme de combat. Il faut faire attention, d'abord, à ne pas stigmatiser telle ou telle confession religieuse en France, et en même temps, qu'il n'y ait pas des effets ricochets sur d'autres confessions religieuses pour qui le signe religieux est le signe d'une visibilité dans la société d'aujourd'hui, d'un message, d'un sens donné à la vie, de conviction, de foi. Et justement, pour nous qui réfléchissons beaucoup à l'évangélisation et à la nouvelle évangélisation, je le disais déjà pour le pape François, et ce fut le thème du synode que le pape Benoît XVI a présidé en octobre dernier, pour ouvrir l'année de la foi, on est en train quand même de redécouvrir la visibilité dans l'espace public de l'Église, hein, parce que la foi n'est pas seulement une notion privée, mais elle est une notion publique, hein, parce qu'elle prend tout l'homme, et elle a forcément des incidences aussi dans la manière de vivre avec les autres. Donc je trouverais dangereux ce genre de loi restrictive pour toutes les religions, et aussi pour nous, hein, et donc pour la liberté religieuse.
Parlons du diocèse, vous poursuivez vos visites pastorales. Le mois dernier, en mars, vous étiez à Notre-Dame-de-Luz à Pontac. Du 10 au 14 avril, vous serez à Asparin, sur la paroisse Bienheureux François d'Ardan. Peut-être un mot sur ces visites pastorales. Pontac, ça s'est bien passé?
Très
Qu'est-ce
bien.
Que vous avez découvert?
Alors, vous voyez, j'arrive, je crois, à peu près à mi-parcours de ma visite pastorale, que j'ai commencé en janvier 2010. Avec François d'Ardan à Asparin, j'aurais visité 35 paroisses, donc au mois d'avril.
Sur 69.
Donc ça fait que je suis vraiment la moitié, hein, tout petit peu plus avec 35. Et je continue toujours avec joie à rencontrer les paroisses. Et donc beaucoup de choses qui sont semblables, c'est-à-dire des chrétiens très engagés, très mobilisés dans les différents secteurs de la paroisse, une présence à la vie associative, généralement, surtout dans le rural. Et quand même toujours cette difficulté du vieillissement, de la difficulté de la relève, de la transmission, et de la nécessité de se convertir à l'évangélisation et à la nouvelle évangélisation. Hein, c'est toujours ça le grand projet que nous menons, et je crois qui commence à gagner de l'adhésion, au moins instinctive, dans le peuple chrétien.
Alors justement, vous parlez de nouvelle évangélisation, vous allez réunir l'Observatoire, tenir une réunion de l'Observatoire de la Mission, vous allez participer également, en tout cas en partie, à un week-end de présentation du parcours Alpha, tout ça c'est en lien avec la nouvelle évangélisation.
Voilà, alors l'Observatoire de la Mission justement va cette fois-ci donc aboutir à un travail que je leur ai demandé, c'est-à-dire nous proposer un schéma souple de mission paroissiale. Voilà, à mettre en œuvre à la carte, selon les forces en présence, dans les paroisses où les curés et les conseils pastoraux demanderont cette mission, qui aura pour but d'aider une communauté paroissiale à mettre davantage en place, avec beaucoup d'autres choses qui se font déjà, hein, une pastorale d'évangélisation. Hein, je sais bien que la pastorale sacramentelle aujourd'hui dans nos paroisses, c'est ce dont je m'accorde très 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 bien, les obsèques, etc., sont vraiment des lieux de nouvelle évangélisation, parce qu'on est aux confins d'un monde qui n'est plus concerné par le message et la vie de nos communautés. Mais je pense qu'il y a aussi une manière d'irriguer cette pastorale sacramentelle, toujours de manière toujours plus missionnaire, en instituant dans nos paroisses des temps forts de mission, avec l'aide de missionnaires extérieurs dont le charisme est la simple annonce, ou la première annonce, ou la proclamation, de l'annonce du kérigme, hein, comme on avait dit. Et c'est ce que l'observateur de la mission va nous proposer, ce que nous discuterons au conseil épiscopal, au conseil presbytéral, et qui sera discuté sans doute, pour être mis en œuvre par les conseils pastoraux des paroisses.
Dans l'actualité aussi de la pastorale des jeunes de notre diocèse, plusieurs événements. Il y a eu ce week-end, le 6 avril, à Saint-Palais, la rencontre des 4e, 3e. Vous y étiez. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée?
Ben, je retiens que c'est magnifique pour des jeunes 4e, 3e qui sont encore loin des JMJ et qui étaient un peu délaissés, peut-être il y a quelques années dans notre diocèse. Ben, c'est toujours une joie pour eux de se rencontrer pour un temps ludique, un temps de fraternité, un temps où on ne se sent pas trop seul quand on participe à une aumônerie, à un groupe ici ou là, préparation de confirmation ou autre, on n'est jamais très nombreux. Et là, on se retrouve tout de suite à au moins 200, donc avec des activités très ludiques, mais aussi des temps de réflexion autour de l'Évangile, et puis une belle célébration conclusive, où on a quand même l'impression que les jeunes goûtent ce rassemblement eucharistique, avec des musiciens qui sont jeunes, avec des chants qui leur correspondent davantage, et on sent qu'il y a une ferveur, un recueillement, une attention, même si c'est après une journée fatigante physiquement, qui fait beau à voir. Et pour moi, c'est l'occasion pour eux de leur faire goûter ce que c'est qu'une expérience d'église, hein, dans la diversité des participants et avec le Christ au centre. Ça n'empêche pas le jeu, l'échange, la rencontre, et donc leur faire goûter tous ces temps qui jalonnent leur croissance de chrétien jusqu'à l'entrée dans la vie adulte.
Cet été, les JMJ à Rio, donc le diocèse se prépare à envoyer 62 jeunes au Brésil. Et le 20 avril, il y aura une rencontre pour les 16-30 ans à Nai. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée, peut-être?
Alors cette journée, elle va être forcément une journée de lancement, hein, de la préparation, même si elle est déjà elle a commencé à être préparée avec la pastorale des jeunes, mais de ces JMJ de Rio, qui seront encore un grand moment pour le diocèse et pour l'Église universelle. Hein, ce sera les premières JMJ du pape François, qui en plus sera sur son continent, mais qui ne sera pas dans son pays. Et donc ça va être un moment très fort et qui risque de booster la pastorale des jeunes dans les diocèses du monde entier.
Vous avez tenu également le 23 mars dernier à rassembler les confirmants de cette année, c'était à la cathédrale de Bayonne. C'est important pour l'évêque qui justement a ce ministère du sacrement de la confirmation, vous êtes en première ligne, de réunir ces jeunes pour un temps fort.
Alors c'est très important, c'est une première mais qui méritera quand même d'être affinée, parce que mon but c'était à la fois qu'il y ait un contact des jeunes confirmants que je peux avoir par ailleurs, mais tous ensemble, pour qu'ils prennent la mesure aussi de ce qu'ils représentent comme peuple. Hein, au sein de notre diocèse, ils sont près de 1200, là ils étaient à peu près 600, à répondre à cette invitation avec leurs animateurs et leurs prêtres. Et c'est important pour moi qu'ils puissent rencontrer l'évêque dans la cathédrale qui est l'église mère du diocèse, et pour beaucoup la découvrir. Je me suis quand même rendu compte qu'on a fait une première, qu'il y a des côtés très positifs, mais en même temps, tout le temps dans l'unité de lieu de la cathédrale, c'est pas forcément à refaire. Il faut certainement affiner ça, et d'ailleurs on a déjà des bons retours qui nous permettront d'affiner tout ça. Hein. Avec un petit bémol que j'ajouterais, c'est que on n'a pas assez fait attention que, pour moi, les confirmants c'était les 6e, 5e, instinctivement, alors je sais bien que je confirme aussi les 4e, 3e un peu moins, mais et surtout dans le Béarn, et donc ça a pu avoir fait concurrence pour certains 4e, 3e avec le rassemblement de Saint-Palais. Donc il faudra qu'on soit un peu plus attentif dans l'accord de nos violons pour une autre année.
Il y a à peu près un an, vous nommiez Claire Deloigne nouvelle responsable diocésaine de la catéchèse. Un an après, vous promulguez le projet diocésain de catéchèse et des documents catéchétiques en la date du jour de Pâques. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la teneur de ce document que vous avez promulgué le jour de Pâques?
Alors, dans le cadre donc de l'année de la foi, j'étais heureux de pouvoir promulguer ces documents catéchétiques. La première chose que je dirais, c'est que je saluerai le travail, le très beau travail qui est accompli par cette nouvelle équipe, hein, du service diocésain, pour étudier avec des grilles de lecture très sérieuses les différents documents, j'allais dire nouvelle génération, hein, qui sont à notre disposition pour la transmission de la foi dans notre diocèse, eu égard aux nouvelles données culturelles qui sont dans un contexte d'évangélisation ou de nouvelle évangélisation, critères qui sont tirés à la fois du directoire général de la catéchèse, du texte national d'orientation pour la catéchèse en France de 2006, et où j'ai listé les critères qui ont été retenus: favoriser la rencontre avec le Christ, en donnant toute sa place à la parole de Dieu et à la vie intérieure, ouvrir à une participation à la vie de la communauté paroissiale, en particulier l'Eucharistie dominicale, en resituant toujours la catéchèse dans le cadre de l'année liturgique, ne pas sacrifier surtout pas le contenu à la méthode, en s'appuyant en particulier pour les formations des catéchistes sur le texte de référence qui est le catéchisme de l'Église catholique, promouvoir des attitudes de vie chrétienne, en particulier de charité, hein, qui donne une crédibilité à la foi, exiger la contribution de catéchistes qui soient de véritables témoins, hein, des aînés dans la foi, qui ne sont pas seulement des animateurs, mais des témoins, et nécessiter aussi l'engagement des prêtres, qui sont les premiers catéchistes des catéchistes. J'ai aussi ajouté ceci, que cette promulgation se veut être essentiellement une recommandation, pour conserver une certaine liberté pastorale. Voyez.
Parce qu'on pourrait s'attendre justement, on pouvait s'attendre justement à ce qu'il y ait qu'un manuel de catéchisme voilà. pour tout le monde.
Voilà.
Finalement, il y a des choix multiples.
Alors généralement, dans les diocèses, on propose toujours 3 à 4 manuels de catéchèse d'initiation. Parce que là, je parle d'abord de la catéchèse d'initiation. Hein. Pour les temps de catéchèse, je ne parle pas de passion au sacrement, de la catéchèse spécialisée, de l'éveil de la foi, ça c'est peut-être quelque chose de différent, et que j'ai aussi, pour lesquels j'ai donné des indications et des recommandations. Mais pour ce qui est des documents catéchétiques, dans les diocèses en ce moment, on promulgue généralement 2, 3, 4 textes, mais il y a 2 formules, ou bien on est très directif, donc c'est une promulgation canonique, et puis c'est comme ça et pas autrement, ou bien on est complètement dans la liberté pastorale, comme à Lyon, chacun fait ce qu'il veut, ou bien on essaie de trouver un juste milieu, et c'est ce que j'ai préféré prendre comme voie. C'est-à-dire que je donne une vive recommandation en disant pourquoi ces documents correspondent mieux aux critères que nous cherchons à honorer. Ceci dit, ceux qui veulent trouver dans leur paroisse, ou dans leur doyenné, ou dans leur école catholique, d'autres textes qui existent, qu'ils le fassent en lien avec le service diocésain de la catéchèse, et que s'il y a des lacunes qui dans ces documents, raison pour laquelle je ne les ai pas recommandés, eh bien, trouvons des outils qui permettront de combler ces lacunes.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayé, pour cette émission, qui était donc co-animée avec Baptiste Pochelu et Olivier Drapé. Merci à vous, et rendez-vous le mois prochain.
Merci.